Boubacar Boris Diop Nangadev.
Ah, mais magnifique, Eric, magnifique. Magnifique.
Bonjour.
Oui, oui, bonjour, bonjour.
C'est le seul mot Wolof que je connais.
Ah ben, il faut un début à tout, bravo. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter là, voilà.
Merci, vous êtes l'un des éminents romanciers, dramaturges et essayistes africains. Comment vous devenez à ce que vous êtes aujourd'hui?
Ah ça, oh, ben, une carrière d'écrivain, je dis toujours que elle vient par derrière. Au départ, bon, l'ambition n'est pas très, très claire, ni même très, très grande. On veut raconter des histoires. Ben, c'est comme quand on est présent dans une assemblée, il y a des amis qui racontent des histoires et on se dit, ah, mais moi aussi, je peux le faire. Eh bien, c'est pareil. On lit des livres, on en lit beaucoup, on les relit, on admire l'ingéniosité, le talent de ceux qui les ont écrits. Et on se dit, ah, mais moi aussi, hein, pourquoi pas, je vais essayer. Et bon, ben, il y a des lecteurs, il y a des gens qui disent, oh, mais c'est très bien, oh là là, ça donne envie de continuer. Et d'envie de continuer comme ça, en envie de continuer, un jour, vous pouvez mettre sur votre carte postale, et je suis désolé, votre carte de visite, vous pouvez mettre écrivain, voilà. Mais en fait, c'est vous-même qui avez décidé de devenir écrivain. Il n'y a pas d'école où on apprend à être écrivain. Il n'y a rien de tout ça. C'est une pratique constante, constante, constante. Et une remise en question permanente. C'est ça qui fait que c'est si excitant. Et il y a le fait aussi que ben, ça ne s'arrête jamais. Voilà, dans mon cas, je viens de parler de lecture. Ben, mon père était un fonctionnaire d'administration coloniale. Il avait une idée d'implanter une grosse bibliothèque dans la maison. Il y avait toutes sortes de livres. Bon, moi jeune, j'étais assez réservé. J'étais bègue aussi. J'avais du mal à parler correctement. Et voilà, la compagnie des livres était vraiment ce que j'appréciais le plus. Je passais des heures et des heures dans cette bibliothèque-là à lire des livres importants. Je me souviens que tous les auteurs français du 19e siècle étaient là parmi ces centaines d'ouvrages. Et puis bon, le soir, j'écoutais des contes qui m'impressionnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'un dans l'autre, les livres le jour, les contes la nuit, m'ont appris qu'avec les mots, on peut fabriquer des mondes. On peut faire éprouver, comme moi-même j'ai éprouvé ces sentiments-là, aux autres, toute la gamme des sentiments humains, la compassion, la haine, le mépris, la joie et la colère, quoi, le ressentiment, voilà, la peine. Et ben, je me suis mis à écrire. Et c'est normal, d'ailleurs, que je sois passé du français au Wolof, parce que les livres que je lisais, les livres du père, c'était en français, mais les contes que j'entendais de ma mère, c'était des contes en Wolof, parce qu'elle elle n'avait jamais franchi le seuil d'une école française, quoi.
Quand on lit vos textes, il y a à la fois continuité et rupture. C'est voulu ou c'est dicté par le contexte?
Ah, bon, je dis toujours que le texte vient par derrière. Je crois même vous l'avoir dit au début. Au fond, on ne contrôle pas. Hein. Je pense que les écrivains qui sont en contrôle, très souvent, ratent leur cible. Je crois qu'il faut fermer les yeux et tirer dans le tas, si je peux utiliser cette image. Oui, c'est la fable du mille pattes, je me souviens. Les animaux lui disent, mais avec tes mille pattes, c'est ta façon de marcher est magnifique, mais ça doit être bien compliqué, comment tu fais? Il dit, ben, bon, il n'y a rien de plus simple, je vais vous montrer. Et dès qu'il essaie de montrer, il n'y arrive plus, il n'arrive même pas à marcher. Je pense que tous les écrivains, c'est un peu comme ça. Les textes, ça vient de quelque part. On ne sait pas d'où. Voilà. À un moment donné, voilà, on laisse le texte de côté et quand on y revient, on apporte des changements. Je crois qu'ils s'imposent. Ils s'imposent d'eux-mêmes. Mais on n'entre pas en littérature innocent ou vierge. On entre en littérature avec tous les bagages qu'on avait avec soi. C'est pas écrit sur notre front. Nous n'en sommes pas conscients. Nous entrons avec un inconscient littéraire qui se déploie de lui-même à notre insu, sans que nous puissions le contrôler. Et oui. Quand quelqu'un dit, yo, voici le type de livre que je vais écrire, moi je dis toujours aux jeunes qui me demandent des conseils, je leur dis, mais en fait, ne vous occupez pas de comment vous allez écrire. Pensez simplement à l'histoire que vous voulez raconter. Quelles émotions voulez-vous communiquer à votre lecteur? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'une histoire, c'est une masse informe de faits. Quels sont les faits qu'il faut choisir? Et lorsque vous les choisirez, ils vous diront ciao et iront se placer là où il faut dans le texte. Et je vous souhaite bien du plaisir si vous cherchez à l'en déloger parce que vous n'y arriverez jamais. Résultat des courses, la plupart des grands critiques littéraires, précisément parce qu'ils savent trop bien comment on écrit un texte, ben, ils font de médiocres écrivains. Si oui, je peux parler comme ça, je crois. Oui. Voilà. C'est ça. Non, non, il faut garder son innocence, quoi, sa naïveté. Et le texte se charge du reste. Après, on le relit. On n'en est d'ailleurs pas forcément content. Mais on se dit, bah oui, tiens, c'est ici que c'est venu se placer. Voilà. Et dans la vie, et la vie réelle, elle n'est pas. Elle n'est quand même pas un long fleuve tranquille. Elle n'est pas en continu. Voilà. Les choses vont et viennent. D'ailleurs, comme le fait dire Marquez à un personnage de 100 ans de solitude, le temps n'avance pas en ligne droite. Je crois que c'est Aurélia Buendia qui dit ça. Le temps décrit un cercle. Le temps décrit des spirales. Et je pense que, oui, l'écriture romanesque, c'est ça aussi.
Beaucoup d'écrivains reçoivent en général un rejet de leur premier ouvrage. C'est arrivé à Modimbe, à Sonny Labutansi, Émile Zola et bien d'autres. Vous aviez envoyé votre premier roman écrit à l'âge de 16 ans, je crois. C'était Le Cloison. Il n'avait pas été accepté chez Présence Africaine. De quoi s'agissait-il dans ce premier roman?
Ah oui, j'étais dans un lycée qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle la Miniguet. À l'époque, c'était le lycée Van Vollenhoven. Bon, voilà, c'était le lycée où on amenait les gens qui, les meilleurs élèves de, voilà, c'est ça. Et puis, mais on était déjà un peu sorti de l'époque coloniale, mais la quasi-totalité des profs étaient, mais vraiment, hein, la totalité même, je peux dire, c'était des Français. L'administration aussi, le proviseur, le censeur, il y avait quelques surveillants noirs, et puis les élèves dans les classes, quand on était 30 ou 35, il y avait 4 ou 5 noirs, quoi. Bon, c'était vraiment le lycée des fils de diplomates, des fils de militaires blancs français qui étaient basés à Dakar. À l'époque, c'était très important ça. Et puis, bon, ben, pas tous les profs, hein. Mais la plupart des profs étaient quand même racistes. Et voilà, moi je suis là, comme l'a dit quelqu'un, on est écrivain parce qu'on passe plus de temps à observer les autres en train de vivre qu'à vivre soi-même. Je crois que la formule est de Paul Auster. Eh bien, moi, déjà très jeune, j'observais quoi. J'observais et je vivais avec intensité les choses les plus banales qui s'y arrivaient, eh bien, je m'estimais discriminé. Donc, voilà, c'était du racisme, tout ça. Et j'ai écrit pour protester. Voilà. contre le racisme. J'avais d'ailleurs l'impression, chaque mot que j'écrivais, c'était un coup de poing à la figure de tel ou tel prof raciste, quoi. Évidemment, c'est la naïveté infantile. Et le roman s'appelait La Cloison. Je n'avais pas écrit pour m'amuser, hein. Pas pour me défouler. Moi, je prétendais être déjà un écrivain ben, digne d'être publié, hein. Voilà, enfin, oui, c'est des gamineries, tout ça. Et puis, je l'ai envoyé pour dire à quel point j'étais sérieux à Présence Africaine, qui a mis un temps fou d'ailleurs avant de me répondre. Mais on m'a finalement répondu par l'intermédiaire d'un certain Jacques Aulette, une très courte lettre, disant, oh là là, votre livre est formidable. Bon, formidable entre guillemets, mais on ne peut pas le publier. Il ne savait pas qu'il l'avait publié, il ne savait pas que c'était un gamin de 16 ans. C'est la réponse standard pour rejeter les manuscrits. Bon, ben, que l'on a pour que l'on a standard et poli, hein, voilà, que l'on n'a pas envie de publier. Voilà, c'est ça. J'ai bien retenu le nom du monsieur, hein, parce qu'à l'époque, il était extrêmement important à Présence Africaine. C'est lui qui avait signé la lettre. Bon, dommage que je ne l'ai pas gardé. Je n'ai même pas gardé le manuscrit, hein. Voilà, je n'ai même pas gardé de manuscrit et ça, bah, ça me fait mal, quoi. Je ne peux pas m'en consoler. Mais effectivement, des livres qu'on rejette, ça fait partie, quoi, du parcours du combattant, de l'écrivain.
Beaucoup d'Africains ont réagi positivement au prix littéraire Neustadt que vous venez de recevoir. Qu'est-ce qui représente pour l'Afrique et pour vous comme écrivain?
On a quand même du mal à faire la part des choses. Un prix littéraire, bon, quel qu'il soit, je pense qu'il ne faut pas en faire une montagne. C'est bien, c'est important. D'ailleurs, le grand danger que je perçois chez certains, c'est qu'ils écrivent pour avoir des prix, pour amadouer les jurys. Heureusement que le jury du Neustadt n'existe pas en tant que tel, puisqu'il change chaque année. Et qu'il n'est pas possible de l'amadouer. On écrit et on oublie. Je crois que c'est une précision qui est capitale. Bon, maintenant, est-ce qu'on va dire, ah oui, voilà, comme ben, si on avait remporté quelque chose d'extraordinaire? Non, moi, je pense que c'est bien. Oui, c'est un auteur bon, qui est récompensé, une production romanesque. Et la question, c'est moins de savoir ce qu'elle représente pour l'Afrique que ce que cet auteur peut en faire au service de l'Afrique. Parce que la notoriété, au fond, ben, on doit l'utiliser, c'est tout. On doit l'utiliser pour faire entendre sa voix, pour mener des combats, voilà, contre l'injustice, etc. Ça a toujours été mon terrain, en quelque sorte, hein. Mais d'ailleurs, je ne suis vraiment pas sûr qu'en Afrique, on connaisse très bien Neustadt. Je dirais vraiment pas, oh là là, c'est une fierté pour l'Afrique. Oh, c'est très bien, on est content. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je me suis souvent fait entendre sur le Rwanda, contre la Françafrique, contre toutes les formes d'imposture. Voilà, j'ai signé un livre avec Verschave et Odile Topner, La veuve de Mongo Betty, intitulé Négrophobie contre l'ouvrage raciste, carrément raciste, du journaliste français Étienne, comment il s'appelle? Oui, Stephen Smith, hein, j'oublie son nom. Et puis, un autre ouvrage avec Aminata Traoré, La gloire des imposteurs, l'Afrique dans le monde. Un livre pareil, ça. Oui, ça me permet de me faire entendre davantage. Vraiment, si je dois le positionner par rapport à tout un continent, c'est juste dans le sens des combats qui me semble nécessaire. Oui, je n'ai pas parlé du combat pour la promotion des langues africaines dans la lignée de Cheikh Anta Diop ou évidemment du combat contre le négationnisme et le révisionnisme concernant particulièrement le génocide des Tutsis au Rwanda.
Le Neustadt, c'est un prix de littérature internationale équivalent d'une aubaine de littérature. Il semble que ce prix, pour vous, traduit votre rapport à la littérature africaine en langue nationale et à la littérature post-génocide. Venez de le souligner un tout petit peu.
J'ai entendu mon ami Jean-Pierre Karegeye dire justement à votre micro, faire cette relation hein, entre mon roman en Wolof, Donigolo, mon tout premier roman en Wolof en 2003, et finalement l'attribution de ce prix. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un. Comment elle s'appelle? C'est plutôt Jennifer Croft, que je connaissais d'ailleurs pas à l'époque, j'ai rencontré il y a 4 ou 5 jours pour la première fois, mais qui lit la version anglaise de Donigolo, intitulée The Hidden Notebooks. Il lit ça, bon, elle est intéressée, elle continue, elle se dit, ah, je vais continuer à lire un peu cet auteur, et c'est comme ça qu'elle découvre Murambi, dans sa version anglaise, évidemment. Murambi a été écrit originellement en français. Et elle propose, c'est la règle dans le prix, il y a un nombre de critiques littéraires, d'écrivains, choisis à qui on demande chacun ou chacune de proposer un ouvrage pour le prix. Et elle, on lui avait demandé, et là, elle a expliqué qu'elle a immédiatement choisi Morambi, le livre des ossements. Et ici, c'est ce que Jean-Pierre a bien expliqué, ici, vraiment, il y a la connexion entre mes deux romans qui me sont les plus chers, entre Donigolo, mon premier roman en Wolof, et Murambi, le roman qui porte sur le génocide de 1994 au Rwanda, le génocide contre les Tutsis. Oui, la connexion est surprenante. Et finalement, je suis primé parce que je suis un auteur de langue wolof. Et ça porte quand même cette langue sur la scène internationale. C'est un cinglant de démenti à tous ceux pour qui, oh, vous savez, écrire en Wolof, ça ne va pas bien loin. Ça reste entre les frontières du Sénégal. Ça ne va pas, oui, il faut surtout pas. Il faut écrire en français, en anglais ou en je ne sais quelle autre langue occidentale. Oui, c'est important, voilà. C'est important vraiment que le Wolof soit honoré à travers ce prix-là. Le Wolof en tant que langue du Sénégal, mais aussi en tant que langue africaine, puisque toutes les langues africaines ont été piétinées par la colonisation. Gouguine n'a jamais cessé de nous le dire. Voilà.
La littérature africaine en langue nationale et à la littérature post-génocide, est-ce qu'on peut dire que Boris Diop s'inscrit dans la pensée post-coloniale?
Tu sais, j'aime pas ces termes, hein, et franchement, ça m'intéresse même pas d'y répondre, hein. Décolonial, postcolonial, jamais chercher à savoir ce que ça veut dire. Je sais que Cheikh Anta Diop a eu une très très forte influence sur moi, sa pensée, l'exemple, le type d'intellectuel qu'il représentait, et je l'ai lu, je l'ai relu, il m'est arrivé de l'enseigner. Et au fond, je lui dois d'être qui je suis en tant qu'intellectuel.
Vous venez de le souligner, je voulais aborder justement cet aspect concernant la littérature africaine en langue africaine et votre combat semble proche de ceux de Cheikh Anta Diop que vous venez de citer. Je citerai Senben Ousmane, Ngugi wa Thiong'o dans des contextes bien entendu différents. L'un est plutôt philosophe, historien, linguistique. Le deuxième, bien que romancier au départ, on se rappelle surtout de lui comme cinéaste. Ngugi est plutôt un écrivain francophone et vous, tout en étant penseur africain avec plusieurs essais, la question de la langue africaine se pose davantage au niveau du roman francophone.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand deux écrivains, l'un francophone, l'autre anglophone, se plaignent de devoir utiliser une langue étrangère, qu'on leur a imposé une langue étrangère, à l'un l'anglais, à l'autre le français, au fond, ils disent la même chose, hein, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des différences, hein. Je viens de faire un texte dans lequel je compare Mugi wa Thiong'o et un autre auteur sénégalais, celui-là, qui s'est toujours battu pour les langues nationales au Sénégal, Cheikh Aliou Daou. C'est très différent. Les auteurs anglophones, au fond, ils ont peut-être d'un peu plus de liberté par rapport à leur langue maternelle, parce que ils l'ont apprise à l'école, ils la connaissent très bien. Ngugi dit dans ses mémoires que la première fois qu'il a été félicité pour un texte écrit, eh bien, il avait 10 ans, c'était un texte écrit en Kikuyu. Ça veut dire que dès 10 ans, Ngugi connaissait sa langue, hein, savait l'écrire convenablement avant d'écrire l'anglais. Chengdao, moi-même et tous les autres, Semben, eh bien, on n'a jamais appris la langue wolof à l'école. Et ça, c'est un élément de taille, je crois, qu'il faut introduire dans le débat sur les langues nationales en Afrique. Hein. Le débat, on a parfois l'impression qu'il fait rage chez les francophones et que Ngugi excepté, les autres auteurs anglophones, vraiment, ne s'en soucient pas, ne se sentent pas obligés de se positionner entre l'anglais ou leur langue maternelle. Mais chez les francophones, c'est très différent. Moi, il y a des pays africains, francophones, où je vais, quand je parle de langues africaines, les gens me regardent comme si je tombais d'une autre planète, quoi. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a des pays où des progrès ont été réalisés et il y en a où il y a tout à faire. Moi, je suis en juillet, je crois, ou non, en juin plutôt, en Côte d'Ivoire, et là-bas, ben, on m'a dit que les langues du pays n'ont pas été, bon, voilà, n'ont pas été standardisées, quoi. Le Senoufo, le Doula, l'Agni, etc. Ça n'a pas été standardisé et ça n'a pas été codifié. Voilà. Et résultat des courses, hein, l'immense majorité des écrivains africains francophones, ben, ils ne se posent même pas la question. Ils sont pour la langue française parce que c'est le seul instrument qu'ils ont à leur disposition, même si parfois ils ne veulent pas le dire, quoi. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, là où on a le choix, dans un pays comme le Sénégal, où quand même les langues ont été codifiées, où il y a une vieille littérature, le Sénégal qui est le pays de Senghor, le francophile bien connu, mais aussi le pays de Cheikh Anta Diop, eh bien, ben, le Sénégal est en train de choisir d'être plutôt celui de Cheikh Anta Diop que celui de Senghor. Oui, c'est un peu. Je crois qu'il y a une mort programmée de la langue française en tant que langue de littérature. Je fais cette précision qui est importante, hein. Le français en tant que langue de littérature, eh bien, on a peut-être pour 40 ans, pour 50 ans, pourquoi pas pour 60 ans, pas plus. Mais enfin, on est entré dans la transition. La transition, ben, décrite par Cheikh Anta Diop comme cette parenthèse historique pendant laquelle nos pays utilisent la langue du vainqueur, la langue du colonisateur, mais qu'une parenthèse qui va se refermer à l'échelle d'une histoire de la littérature sénégalaise sur la longue durée. Maintenant, cette transition, elle sera de durée extrêmement variable selon les progrès actuellement réalisés dans les pays. Moi, pour le Sénégal, je vois bien que dans un demi-siècle, il y aura plus match. Ce sera fini, demi-siècle. Je suis même, je pense que moins. Mais dans d'autres pays africains où il n'existe pas de littérature dans les langues nationales, où les langues n'ont pas été codifiées, eh bien, ça prendra plus de temps. Mais il n'y a pas une parenthèse unique, quoi. La parenthèse, bon, ben voilà. C'est selon les pays, la transition, en quelque sorte, c'est selon les pays. Voilà.
Vous avez traduit vous-même certains ouvrages du Wolof au français. Certains de vos ouvrages ont été traduits en plus de 20 langues. Que pensez-vous du travail de traduction? Peut-on dire une œuvre traduite est une autre?
Oui, mais vous savez, c'est important la traduction dès 54, lorsque Cheikh Anta écrit dans les années 50, écrit Nation et Agriculture, ben il traduit un résumé de la théorie de la relativité de Einstein, il traduit la Marseillaise, l'Odyssée de Homère, d'autres textes, etc. Mais pour montrer que franchement, il n'y a pas de langue supérieure ni de langue inférieure. Que ben, toutes les langues, bon ben voilà, peuvent se parler entre elles, si je peux utiliser cette formule imagée. Toutes les langues peuvent se parler entre elles, et à partir de ce moment, ça enlève un argument capital de la bouche de ceux qui sont contre les langues africaines. Parce qu'est-ce qu'ils disent? Oh, vous savez, si vous écrivez en Wolof, bon ben, qui va vous lire? Le Wolof n'est parlé qu'au Sénégal. Mais en fait, excusez l'expression, mais souvent, quand on me dit ça, la personne qui est en face de moi, je pense, mais celui-là, c'est un crétin. Pourquoi? Parce que, vous savez, les Bulgares, ils sont moins nombreux que les Sénégalais, les Hongrois, Albanais encore, mais les Grecs, qui parle grec dans le monde à part les Grecs? Est-ce qu'on va dire aux Grecs, non, votre langue est là chez vous, arrêtez, écrivez en, je ne sais pas, en allemand, en espagnol ou je ne sais dans quelle autre langue. Alors, l'Europe qui essaie de nous effrayer et de nous effrayer de la sorte, mais l'Europe est une mosaïque de langues. Mais qu'est-ce qui se passe? Gugy, d'ailleurs, le souligne dans The Colonizing the Mind, son livre majeur. Il dit, toute langue a une double fonction. La première fonction de la langue, c'est la fonction, en quelque sorte, pratique. Voilà. Si je perds mon chemin n'importe où dans le monde, mais franchement, peu importe dans quelle langue, on m'indique le chemin. Donc, elle a cette dimension pratique dans la vie quotidienne, mais aussi, elle a une dimension symbolique, culturelle, extrêmement forte. Et il donne l'exemple, par exemple, du Danemark, des pays scandinaves. Il dit dans les pays scandinaves, bon, ils utilisent l'anglais pour les échanges avec le reste du monde, dans la vie pratique. Hein. N'importe quel étranger, moi je suis au Danemark il n'y a pas longtemps, qui arrive au Danemark, ben, s'il parle anglais, il peut parler à tout le monde. Mais en même temps, il y a la langue danoise, dans laquelle on écrit des romans, de la poésie, du théâtre, ben, sur laquelle on veille. Qui reflète l'âme du peuple danois. Mais les Africains, c'est comme ça. On écrit dans sa langue, qui est, dans mon cas, ma langue maternelle, c'est le Wolof, et c'est traduit. C'est traduit Domingolo en français, il a été traduit en anglais, en espagnol, la version italienne est en cours par un jeune Sénégalais de Milan. Voilà, ça c'est un exemple comme d'autres. Mais on peut aussi traduire dans l'autre sens. Et c'est comme ça que j'ai été amené à traduire Aimé Césaire, une saison au Congo, sur l'assassinat de Patrice Lumumba en Wolof. Voilà pourquoi cette pièce en particulier, j'avais très envie de travailler sur la conjonction entre Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop et Patrice Lumumba. Toi patriote noir, toi patriote africain. J'avais très envie. Pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre, c'est un langage direct. Oh, pendant que je traduisais la pièce, j'étais littéralement en face d'un public wolophone, d'un public sénégalais, et comment dire, j'anticipais hein, leur réaction. Et je pense que le théâtre, d'ailleurs, et c'est étrange que ce ne soit pas vraiment souvent pris en compte, dans le combat pour la promotion des langues africaines, le théâtre peut jouer un rôle majeur. Et pourquoi? Parce que c'est pour Césaire, parce que Césaire, c'est quand même le sommet du théâtre négro-africain de langue française, et montrer que finalement, nos langues au théâtre, ce n'est pas seulement de l'improvisation, des imprécations, des cris, qu'il y a une parole articulée, bien organisée, pour faire naître des idées, des sentiments, à travers l'humour, à travers l'intensité dramatique, voilà. Et oui, c'est ça, hein. Vraiment, c'est la traduction, c'est fondamental. Fondamental. Tous ceux qui disent les langues voyagent. Comment ai-je fait, moi, pour lire des auteurs comme Tolstoï, qui écrivait en russe, Franz Kafka, qui écrivait en allemand. J'ai fait des études d'italien, Ungaretti, D'Annunzio, tous ces auteurs-là, ben, je les ai lus en traduction, évidemment, sans parler de l'espagnol avec Cervantes et compagnie, quoi. Voilà, même les auteurs grecs dont on parle, ben, si on ne les avait pas traduits, ben, ils ne seraient jamais sortis de la Grèce. Voilà, les mille et une nuits, c'est en arabe au départ. Ben, j'ai lu et relu d'ailleurs les mille et une nuits. Voilà. Et donc, ben, si nous écrivons ben, dans nos langues, ben, elles vont être traduites et lues. C'est ne pas comprendre cela, c'est vraiment, je ne sais pas, hein, c'est, je ne trouve pas le mot, quoi, et je ne veux pas utiliser des mots blessants. Voilà.
Vos romans empruntent en général une narration qui rappelle les contes africains. Et dans Le Cavalier et son ombre, le personnage principal, Radija, est une conteuse. Vous avez parlé de votre mère qui était une conteuse, donc elle a eu une influence sur la façon de narrer dans vos œuvres fictionnelles.
Oui, ça, je ne m'en suis rendu compte que plus tard. Je ne m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Et je crois que c'est pour rendre hommage à cette femme que j'ai écrit Le Cavalier et son ombre et fait de Khadija. Mon personnage, d'ailleurs, romanesque, auquel je suis le plus attaché, eh bien, j'en ai fait une conteuse à cause de cela. Oui, 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 oui. C'est vrai, aussi bien dans la structure de la narration que dans la langue, à cette influence-là, elle est réelle, elle est formidable même.
Quand on lit vos ouvrages, on constate que vous êtes en dialogue avec plusieurs penseurs et écrivains au-delà des barrières linguistiques. On retrouve facilement ce dialogue avec Sartre, Camus, Kuruma, Amos Tuturola, les latino-américains comme Rulfo, Cortázar, Marquez ou Sabato. Comment se passe ce dialogue et pourquoi il semble vous attirer?
Non, ce sont des auteurs qui m'ont influencé à des périodes très, très différentes de ma vie, pour dire la vérité. Sartre, comme je l'explique toujours, je l'ai lu et relu, et je l'ai beaucoup aimé, mais en fait, les traces de cette influence de Sartre, aujourd'hui, sur ma production littéraire, sont quasi nulles. Hein. C'est-à-dire que Sartre, qui était vraiment un esprit puissant, qui était le maître à penser littéralement de son temps, eh bien, sa fiction romanesque ne tient pas sur la durée. J'ai essayé de relire récemment les ouvrages, les romans de Sartre, hein, Les Chemins de la Liberté et compagnie. Bon, ben, ça vous tombe très vite des mains. Hein. Ça, vraiment, je suis en train de commettre le meurtre du père, mais allons-y joyeusement, ça n'a pas d'importance. En revanche, quelqu'un comme Camus, eh bien, dont les idées, bon, à l'époque, ne me séduisaient que moyennement, mais vous continuez à le lire et à le relire, et vous savez que vous tenez là un grand texte romanesque. Donc oui, ça dépend. Hein. Les auteurs latino-américains, ben, à l'époque, c'était la mode. Bon, pas seulement une mode, hein. C'était vraiment une tendance importante de la littérature universelle, les Cortázar, les Sabato, etc., Rulfo, l'auteur de Pedro Páramo. Eh bien, pour moi, Sabato, l'Argentin, c'est le plus important. Et c'est très compliqué Parce qu'en fin de compte, moi, je juge les auteurs un texte après l'autre. Hein. Voilà, je ne m'en tiche pas comme ça d'un auteur parce que, voilà, 100 ans de solitude, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais j'ai du mal à citer un autre ouvrage de Márquez qui a fait sur moi forte impression. Mais pareil pour quelqu'un comme le Nigérian Achebe, quel livre formidable que S'il faut le part, le monde s'effondre, qui a été retraduit autrement d'ailleurs. Et mais le reste de la production romanesque de Achebe, je prends, voilà, mais sans plus, hein, vraiment. Hein. Je ne trouve pas ça du tout extraordinaire. Voilà. Ainsi, hein, donc oui, on navigue entre plusieurs influences, Sébène, les bouts de bois de Dieu, Betty, Mission terminée, mais aussi son engagement militant, voilà, tous les risques qu'il a pris. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle la génération, les écrivains de la deuxième génération. Hein. Je crois que c'est le critique togolais, Sévanou Dabla, qui a le premier formulé ce concept de écrivain africain de la deuxième génération. Bon, c'est les Sonny Labutanci, c'est William Sacine, etc. Hein, Henri Lopez, le pleurer rire, même si Lopez est légèrement plus âgé que nous, c'est la même veine littéraire. Eh bien, voilà, on arrive avec au fond des intentions de renouveler le propos littéraire, le discours littéraire, de tuer ceux qu'on a aimés, ceux qui nous ont influencés, en essayant d'aller un peu plus loin et peut-être si j'ose le dire un peu plus profond. Mais voilà, c'est ça. Oui. C'est vraiment des textes qui se parlent entre eux. Et puis on trouve son chemin là-dedans, quoi. Et les auteurs, les grands auteurs, ils ne nous inspirent pas seulement par leur texte, hein. Ils nous inspirent aussi par, comment dire, leur comportement au quotidien, l'adéquation qu'on peut trouver entre leur texte et leurs engagements politiques, citoyens, etc. De ce point de vue, Mongo Betty est formidable, quoi, tout simplement. Voilà. Il a payé d'ailleurs un lourd tribut à ses engagements. Et donc, oui, c'est non seulement l'écrivain, mais aussi le camarade à qui on voue un respect immense.
Il y a tout de même une influence marxiste et des écrivains latino-américains dans la façon de représenter les luttes de classe dans vos romans, mais aussi dans la dénonciation des dictatures. L'OTAN d'Otamango serait une bonne représentation. Est-ce une influence, pas subie, mais disons assumée pendant vos études de philosophie?
Tout ce que je sais de la littérature, personnellement, je crois que je l'ai appris en dehors des amphis, quoi. J'avais mon truc personnel. Je lisais les choses qui me plaisaient et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on enseignait. Donc là, je crois qu'il faut laisser de côté les cours de philo. Il parlait pas du tout de ça. L'influence marxiste, mais elle allait en même temps, elle allait de pair avec l'influence des auteurs latino-américains, parce que c'était l'époque où on parlait des non-alignés, ou l'époque des guérillas en Amérique latine, de Che Guevara. Et s'il est une amitié, je pense, jusqu'à la fin, qui a été non seulement exemplaire, mais révélatrice, c'est l'amitié dont on ne parle pas assez. Vraiment l'intimité même entre Gabriel Garcia Márquez et Fidel Castro. C'était les deux meilleurs amis du monde qui n'ont jamais cessé de se fréquenter, de se parler, même si évidemment ça faisait hurler dans les milieux réactionnaires d'Occident. Écoutez, voilà, on était là, non seulement on lisait ses auteurs, mais quand même on suivait de près Che Guevara, et Che Guevara lui-même est venu au Congo. Cuba s'est militairement impliqué et Castro était bien le seul dans la lutte contre l'apartheid, militairement, voilà, dans la lutte contre l'apartheid, pour la libération de l'Angola, de l'Afrique du Sud, etc. Ah oui, ça allait très loin au-delà de la littérature. Et ça nous rendait cette littérature beaucoup plus proche, mais d'autant que c'était là-bas, comme sur le continent africain, les coups d'État militaires, des dictatures, hein, voilà, c'était les mêmes. Autant l'impérialisme anglais et français contrôlait l'Afrique, autant l'impérialisme américain contrôlait l'Amérique latine. Voilà, des dirigeants comme Stroessner, Vargas au Brésil, et j'en oublie, et puis plus tard, évidemment, Videla et Pinochet en Argentine et au Chili, ben ça faisait que les gens disaient, ah, la CIA, la centrale d'intelligence américaine, eh bien, elle siège dans les conseils des ministres de ces pays-là. Ben, de la même manière, dans l'Afrique francophone, ben, si quelqu'un voulait être chef d'État, il devait, on connaît l'expression, il devait se soumettre à un entretien d'embauche auprès de Jacques Foccart, qui décidait, bon ben voilà, celui-là il est bon, on le place au Cameroun, ah ben lui c'est la Côte d'Ivoire, etc., etc., etc. Évidemment, oui, ces deux littératures ne pouvaient pas se contenter de s'entrecroiser, elles ne pouvaient que s'interpénétrer. Voilà, la littérature latino-américaine et la littérature africaine, qu'elle soit en anglais ou en français, on était tous, mais personne n'y échappait. Et puis, bon, voilà, Alejo Carpentier, Le recours de la méthode, mais ce sont des auteurs de grands talents d'ailleurs, tout simplement. Si on laisse de côté les aspects politiques, la lutte contre l'impérialisme, Che Guevara, etc., etc., c'est juste que ben, vous prenez un livre, ben, Pedro Páramo, et puis voilà, quoi, vous êtes dans un imaginaire qui vous rappelle vous-même, mais qui en même temps est l'imaginaire personnel de Juan Rulfo. Rulfo, d'ailleurs, dont tous ces auteurs les plus importants d'Amérique latine, disent il est notre ancêtre. Nous lui devons tout. Et Léonie, c'est que Rulfo est peut-être l'un des moins connus. Il était mexicain. Et j'ai vécu au Mexique et puis j'ai vu une petite place, toute petite place, quelque part dans Mexico, qui s'appelle, bon, place Juan Rulfo. Je crois que, à ma connaissance en tout cas, ça s'arrête là. Mais en fait, c'est un auteur fabuleux et il a eu... avec ce petit texte-là, une influence exceptionnelle, reconnue par ses héritiers, que ce soit Marquez, Cortázar, tous, Octavio Paz, mais tous, voilà, Fuentes.
Revenons à l'écriture en langue africaine, pourriez-vous nous parler un peu du processus de cette écriture et de la traduction en langue occidentale?
Oui, en fait, je n'ai jamais autant appris sur mes propres écrits, sur mon propre travail littéraire, que quand j'ai commencé à écrire en Wolof, quoi. J'habite dans une société dite francophone, la société sénégalaise, mais où personne ne parle français. Tous les étrangers, y compris africains, qui ont visité le Sénégal, ont bien constaté le phénomène. Donc, quand j'écris en français, d'une certaine manière, je ferme la fenêtre, il y a les mots en wolof que j'entends tous les jours, qui frappent à la fenêtre, hein, qui veulent entrer. Et puis, moi, je veux écrire en français. Je veux pas mettre des mots Wolof et tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire du Wolof? Mais ils tapent avec insistance. Bon, je rigole, mais dis donc, ils sont bêtes quand même. Ils veulent entrer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans mon texte en français? Ils n'y ont pas, ils n'y ont pas leur, ils n'y ont pas leur place. Mais ce faisant, en fait, quand j'écris en français, j'écris avec des mots que je n'entends pas. Des mots que je n'entends pas du tout, du tout, du tout. Hein. Et je pense que lorsque un auteur écrit avec des mots ben, qui ne traversent pas ses oreilles, il y a un déficit de poésie dans cette musicalité, qu'il le veuille ou non, dans son langage. Je crois que la réalité lui échappe d'une certaine façon. Et puis, les circonstances ont fait que je me suis mis à écrire en Wolof. Évidemment, la fenêtre était largement ouverte. Ces gens qui voulaient m'ennuyer quand j'écrivais en français sont venus, ont pris toute la place. Ça a été, hey, oui, c'est un véritable carnaval, une fête des sonorités quotidiennes, des choses que j'entends un peu partout autour de moi. Et ben la poésie, ben oui, c'est ça. Donc l'écriture romanesque, vraiment, ça devient quelque chose que l'on peut entendre. Moi, l'exemple que je donne, hein, j'écris des livres en français en Wolof. Et puis, je vais quelque part, je fais une lecture en français. Rien. Vraiment en rien. Personne. Oh, de temps en temps, il y a un petit mouvement dans l'assistance, etc. Mais quand je fais mes lectures en Wolof, en particulier avec les communautés sénégalaises établies en Espagne, en Italie, j'ai fait ça souvent, et bien la diaspora, ben, je te promets, hein, les réactions sont, ça fuse de toutes parts. Ça fuse de toutes parts. Et oui, c'est vrai, ben, en fait, au fond, le sens d'une langue, c'est aussi dans les émotions qu'elle nous procure. Le sens d'une langue est dans des bourdonnements, dans des vibrations. Voilà. Oui. C'est vraiment. Ben au début, ça a été très difficile, hein, au début de Domigolo, mais après, c'est devenu un jeu d'enfant. J'y prends un plaisir énorme. J'entends des voix parce que les mots ne sortent pas du dictionnaire ici, quand j'écris en Wolof. Ils sortent pas du dictionnaire. Même si, pour vérifier l'orthographe de tel ou tel mot, je vais utiliser le dictionnaire d'Aramfal ou de Jean-Léopold Diouf. Ce sont les deux avec lesquels je travaille le plus. Eh bien, alors que quand c'est en français, voilà, c'est des règles grammaticales, oui, l'imparfait du subjonctif, et toutes ces histoires à dormir debout, ben, on n'en a rien à faire, quoi. Voilà. C'est tout. Et tout le monde me dit, Dorigolo en Wolof, et les Plis de la Gonô, qui en est la version française. Mais alors là, franchement, ben, c'est. En Wolof, on dirait, c'est comme Yalla Yali, quoi. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Les gens préfèrent 1000 fois Domigolo à sa version française, les Plis de la Gonô.
Murambi est le roman le plus étudié dans le contexte du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce pays des mille collines de 1994 a eu, je dirais, une influence dans votre écriture post-génocide. Pourrions-nous nous parler un peu du projet Écrire par devoir de mémoire et de la façon dont cet événement, s'inscrit dans votre projet littéraire et réflexion politique et sociale.
Oui, en fait, c'est à Lille, quoi. En 1996, je crois, le festival organisé par Maimouna Koulibaly et son époux de l'époque, Nokidje Danoum, que nous apprenons la pendaison de Kensaro Viva à Port-Harcourt, aiguille de ses compagnons. À partir de là, bon, il y a des mouvements de compassion, de colère, mais aussi une réflexion, quoi. à quoi servons-nous, nous autres écrivains africains? Noki et Maïmouna organisent notre séjour au Rwanda, et ça s'appelle le projet Rwanda écrire par devoir de mémoire. Nous nous y rendons, nous parlons avec les survivants, nous parlons même avec les tueurs, oui, c'est ça, dans les prisons. Et chacun de nous, bon, voilà, écrit son livre. Bon, on n'était pas obligé d'ailleurs d'écrire. L'idée, c'était vous y aller, vous témoigner. Si vous avez envie d'écrire, vous écrivez. Eh bien, si vous n'en avez pas envie, eh bien, vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus au Rwanda. Et moi, j'ai publié Rwanda écrit par devoir de mémoire. Et ça a beaucoup changé ma vision des choses, parce qu'au départ, bah, je pensais que c'est pas bien d'écrire un roman sur le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que l'écriture romanesque est tellement dérisoire par rapport à l'intensité de la tragédie, à sa gravité. Voilà. C'est dérisoire, c'est un instrument. Mais bon, après quelques jours, je me suis rendu compte que bon, voilà, oui, ça a du sens d'écrire sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je l'ai fait, et je pense que oui, je n'ai pas été le seul à le faire. Nous tous nous l'avons fait. Kossi Lamgo, j'aime beaucoup la falaise des collines de Kossi Lamgo. Ça a été bien d'aller là-bas. Ça a été bien de le faire. Parce qu'à l'époque, les Rwandais eux-mêmes étaient en état de sidération, si je peux le dire ainsi. Et ils avaient en tête autre chose que d'écrire des livres. Et d'ailleurs, ils ne semblaient pas bien comprendre ce qu'on était venu faire là-bas. Parce que quand ils se faisaient massacrer, personne n'a voulu se porter à leur secours. Et puis voilà, des écrivains francophones qui débarquent. Voilà, franchement, la compassion en bandoulière, est-ce que tout ça c'est sincère? Et puis c'est des autofrancophones, il faut faire attention. Bref, nous avons, quoi qu'on dise, inscrit l'événement dans la durée. Bon, 30 ans après, on parle du génocide de Tutsi au Rwanda, ce n'est pas grâce à nous, ce serait très présomptueux de le prétendre, mais quand même nous avons joué un petit rôle, quoi. Le projet Rwanda écrit par devoir de mémoire, et personnellement, ça m'a quand même mieux fait comprendre ce que nous appelions le néocolonialisme français, parce que la France a été profondément impliquée du côté des génocidaires, à mieux comprendre la France-Afrique. Voilà ce que j'appelais l'impérialisme français. Le néocolonialisme français, c'est trop abstrait. Là, je voyais vraiment... La France-Afrique dans l'odeur de la mort. Tous ces corps, quoi. C'est quand même l'État français sous François Mitterrand y est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a quelques années, personne en France ne voulait entendre cela, mais aujourd'hui, surtout après le rapport Duclerc, Vincent Duclerc, je crois que la partie est gagnée. L'opinion publique française elle-même admet que la France a été profondément impliquée dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et pourquoi François Mitterrand, dont le rapport Duclerc souligne, hein, après 2 ans de travail, la responsabilité lourde et accablante dans le génocide des Tutsis au Rwanda, pourquoi cela n'a pas changé son image dans l'opinion française? Ça, pour le coup, c'est très intéressant. Je pense que dans beaucoup de pays occidentaux, un ancien chef d'État, on découvre même plus tard qu'il a été profondément impliqué dans un génocide. Il a littéralement plongé ses mains dans le sang de millions d'innocents. Ça, je crois que ça aurait remis en question sa place dans l'histoire. Mais le lendemain de la publication du rapport Duclerc, plus personne ne parlait de François Mitterrand. Mais il était le complice direct de ces assassins, quoi. Donc ça, si. Je crois que c'est, vous savez, le racisme, quoi. Ça se manifeste de façon diverse et variée. Et là, si vraiment l'héritage de François Mitterrand, son héritage moral, spirituel, tous ces grands mots, si ça reste intact, mais c'est parce que les Tutsis, ben, ceux qui sont morts au Rwanda, ben, c'était des Noirs, hein. Oui, il n'a pas seulement trempé dans un génocide, mais il a trempé dans un génocide qui a tué des Noirs. Et là, évidemment, c'est moins grave. Et ça s'appelle, monsieur, du racisme. Même de la part de ceux qui se défendent très très violemment d'être racistes. Le racisme, c'est la plupart du temps, c'est tellement inconscient. Oui.
Boubacar Boris Diop, merci de votre entretien accordé à VOA Afrique et merci d'avoir partagé votre itinéraire comme écrivain.
Merci beaucoup. Merci Eric. Ben, je suis content. Voilà. C'est un dialogue. On écrit aussi pour que cela nous mette en dialogue avec nos lecteurs. Et le dialogue avec nos lecteurs, ben, ça passe par un dialogue avec vous-même. Donc, c'est vous que je remercie directement. Sans vous, eh bien, l'échange avec les lecteurs n'aurait pas été possible. Merci beaucoup encore une fois.
Merci encore une fois. Eric Manirakiza était à la présentation et a réalisé cet entretien. Merci et restez à l'écoute de VOA Afrique et voafrique.com.